Welkom bij Radio Maria.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa?
Met de tandem op wereldreis, op zoek naar de Vader.
In deze coronacrisis, waardoor het reizen sterk wordt beperkt, biedt Radio Maria, jullie beste luisteraars, de kans de wereldreis met Alix en Benoît per tandem te herbeleven. Wekelijks van september 2014 tot juni 2015 brachten zij ons telefonisch op de hoogte van hun avontuur en hoe het vaderschap wordt beleefd in de vele landen en culturen. Tijdens deze zomermaanden kan u hen beluisteren, elke dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag om 14:15. Hun reis met foto's kan je trouwens nog altijd bekijken op hun website. In één woord, entandempourlepère.com. We wensen jullie een aangename reis door de wereld.
Bonjour.
Bienvenue, Tom.
Ma femme va venir dire bonjour. Attends.
Bonjour.
Bonjour, femme.
Alix et Benoît, c'est ça?
Et Benoît, exactement.
Et tout va bien?
Oui, très très bien.
Oui, pas trop fatigué?
Hallo beste vrienden, welkom om terug te luisteren naar het reisverslag van Benoît en Alix op een tandem de wereld rond op zoek naar de Vader. Ze hebben dus Italië verlaten met de boot vanuit Bari op woensdagavond 8 oktober richting de havenstad Durres in Albanië. Een overtocht 's nachts van ongeveer 9 uur. Dit op uitnodiging van de paters Rogationisten van het Hart van Jezus, die ze in Rome hadden leren kennen en die zeer actief zijn in Albanië. En alles gaat goed, en ze zijn niet te moe. Hoe de boottocht is verlopen, luister maar.
Oui. Alors, ça s'est bien passé sur le bateau?
Ça s'est très bien passé. On a fait sensation avec notre tandem en arrivant au milieu des camions et des voitures.
Ah oui.
C'était très drôle. Mais après, oui, sur le bateau, il y avait pas trop de monde. Et puis alors si, c'était drôle parce que comme nous avons toutes nos affaires avec nous, nous avons étalé notre petit matelas gonflable par terre, oui, avec notre set de couchage. Et donc ça a fait rire pas mal de monde qui était autour. On s'est installé comme pour un camping pour pouvoir dormir un peu. C'était très drôle.
C'était pas prévu pour dormir.
Non, il y avait juste des banquettes et chacun prenait les banquettes. Enfin, c'était premier arrivé, premier servi.
Et alors, à Durres, il y avait le père Salvatore qui vous a accueilli?
C'est le père, non pas le père Salvatore, mais son vicaire, le père Alessandro. Mmh. Voilà, Alessandro, parce que le père Salvatore est en fait le curé de la paroisse de Chenecol, là où nous sommes. Mais c'était très sympathique. Et en fait, il y a quand même une heure de voiture pour rejoindre leur paroisse. Et du coup, en fait, nous sommes encore à Chenecol là, actuellement.
Het is goed verlopen. We vielen wel op met onze tandem tussen al die wagens en vrachtwagens. Het was grappig. Er was niet te veel volk op de boot. Slaapgelegenheid was er niet. Maar daar ze alles mee hadden, hebben ze toch gepoogd te slapen en hebben ze gewoon hun opblaasbare matrassen op het dek gelegd en geslapen in hun slaapzakken. Iedereen daar vond het grappig, dat kamperen op het dek. Het was niet pater Salvatore die ze in Rome hadden ontmoet die hen opwachtte in Durres, maar zijn kapelaan, van dezelfde parochie, pater Alessandro. en daarna volgde een uur meer naar het noorden met de wagen naar Chenkol. En het is van hieruit dat we dit telefonisch onderhoud hadden.
Nous sommes donc à la paroisse du Père Salvatore et du Père Alessandro. Il y a un troisième prêtre qui est le Père Antonio, mais qui est actuellement en Italie.
Donc ici sur la paroisse, donc il y a cinq ou six églises. La paroisse est très longue, hein, au moins 10 kilomètres de long jusqu'à la mer, enfin de la montagne à la mer. Il y a 10 kilomètres et ensuite en largeur, on ne sait plus trop.
We bevinden ons in Chenkol in de parochie met drie priesters, pastoor Salvatore en twee kapelanen, pater Alessandro en pater Antonio, maar die was momenteel in Italië. Het grondgebied is zeer uitgestrekt. Alleen al bijvoorbeeld van de bergen naar de zee, een goede 10 kilometer.
On a accompagné le père Alessandro, donc on est allé à la messe avec lui l'après-midi, vers 3h30. Comme les enfants n'ont pas classe
après
13h, ils font le catéchisme et ils enchaînent sur la messe, en général. Voilà. Enfin, et donc du coup, ils font ça dans différentes paroisses. Donc on est arrivé donc jeudi, vendredi, samedi, on était dans des paroisses différentes.
In de namiddag hebben we de mis bijgewoond met pater Alessandro om 3:30. De scholen eindigen hier elke dag om 13:00. De kinderen krijgen in de namiddag catechese en dus de mis daarna. En dat gebeurt in elk van deze parochies. Benoît en Alex hebben het meegeleefd telkens in een andere parochie.
Donc il y a des sœurs ici, voilà, qui aident, tous travaillent ensemble. Et donc du coup, c'est elles qui font le catéchisme, ensuite qui apprennent les chants aux enfants. Donc à la messe, en fait, il y a beaucoup d'enfants. Il y a des enfants, quelques femmes.
Quelques hommes,
ça dépend des endroits, mais parfois quelques hommes. C'est-à-dire que la première messe où nous sommes allés, il y avait 7 enfants de chœur, 7 servants d'hôtel, et une dizaine de garçons dans l'assemblée, plus quelques filles. Le lendemain, il y avait 30 enfants en tout. C'est un beau travail. Les pères font un énorme travail avec la jeunesse, en fait.
Er zijn ook zusters die meehelpen. Allen werken samen. De zusters verzorgen de catechese en oefenen de liedjes voor de heilige mis. Er zijn veel kinderen in deze mis van de namiddag. Enkele vrouwen en ook enkele mannen. Het verschilt wat per plaats. Bijvoorbeeld, op een dag waren er 7 misdienaars en een 10 jongens en meisjes in de kerk. In een andere parochie waren er eens 30 kinderen. Deze paters en zusters verrichten mooi werk met de jeugd hier.
En fait, comme ils n'ont pas cours après 13h, ils ont énormément de temps libre. Donc, tous les après-midi, on voit une petite dizaine de garçons qui viennent ici, donc dans la maison des pères, et qui sont là. Alors, ils viennent profiter des ordinateurs qui sont mis à disposition, ou qui vont aider pour s'occuper des poules, parce que les pères ont une trentaine de poules. Et les filles vont avec les sœurs, donc dans la rue qui est juste à côté. 4 sœurs indiennes qui sont là.
Daar deze kinderen maar les hebben tot 13:00, hebben ze de rest van de dag vrij. Zo vertoeven 10 jongens bij de paters. Ze mogen op de computers en moeten ook helpen bij de 30 kippen die er zijn. De meisjes zijn dan welkom bij de zusters. De zusters komen uit India, maar allen behoren tot deze gemeenschap van de Rogationisten.
Et le curé aussi, sont des curés albanais ou?
Non, italiens. Les Italiens sont assez présents, en fait, en Albanie.
En fait, à la chute du régime communiste en 92, ici sont arrivés, en fait, des Italiens, puisque c'était eux qui étaient les premiers.
Les plus proches. Ouais.
Donc ici, vous avez que des communautés qui sont italiennes à la base. Bon, alors là, les 4 sœurs sont indiennes, mais la communauté a été fondée en Italie.
Oui.
C'est quelle communauté?
Les Rogationistes.
Que vous avez rencontré à Rome.
Et ensuite, du coup, c'est eux, ici, ils ont à peu près tout construit. toutes les églises ont été construites par eux, mais même beaucoup de choses. C'est-à-dire que hier nous sommes allés dans une maison et la maison avait été construite par les pères. Par exemple, hier nous sommes allés visiter l'école est tenue par les rogationnistes aussi. L'école a été construite par les rogationnistes, par des fonds qui venaient d'étrangers.
De priesters zijn allemaal Italianen. De Italianen zijn hier zeer vertegenwoordigd. En Benoît legt uit hoe dat komt. Na de val van het communistisch regime hier in 1992 zijn het Italiaanse geestelijken die snel naar hier zijn gekomen. Italië ligt ook dichtbij. De religieuze gemeenschappen in Albanië zijn dus van Italiaanse oorsprong. Zo zijn de kerken, de huizen van de paters en zusters en de scholen gebouwd met fondsen uit het buitenland.
L'Albanie, c'est un pays difficile, parce qu'il n'y a pas de travail. Les gens nous disent ça, hein. Les sœurs, les prêtres nous disent vraiment, le communisme leur a lavé le cerveau. C'est-à-dire que le communisme leur donnait tout. Le communisme a d'abord pris toutes leurs terres et a séparé les terres en petits lopins. Alors du coup, chaque famille a un petit lopin de terre, mais vraiment ridicule, hein. C'est-à-dire que c'est 10 mètres sur 100. Et alors du coup, chacun a une vache, des poules et ce petit lopin de terre
pour
manger.
Albanië is een zeer moeilijk land om in te leven. Er is geen werk. Dat vertellen ons de paters, de zusters en de mensen hier. Het communistisch regime heeft de mensen gehersenspoeld door alles te geven, dus in de zin van geen eigen initiatieven. Het regime nam eerst al hun gronden af en herverdeelde het in heel kleine, belachelijke stukjes. Zo bekwam elk gezin iets van 1 are met 1 koe en enkele kippen en konijnen als voedsel. Dus een zeer individualistische mentaliteit.
Du coup, ici on a vu de très peu de machines agricoles, mais très très peu. Il n'y a pas de grande production, il n'y a pas d'industrie non plus, il n'y a pas de travail en fait. Donc c'est pour ça qu'on voit énormément d'Albanais chez nous.
Et dès qu'ils touchent leur salaire à l'étranger, ils reviennent construire leur maison en Albanie.
Et en même temps, ils n'ont pas une mentalité pour développer le travail.
Et le gouvernement n'a pas cherché à développer davantage l'Albanie. Il y a un vrai, vrai, vrai problème au niveau du travail.
Camille, en fait, en souffre.
Benoît vervolgde. Vandaag zie je dus heel weinig landbouwmachines. Er is geen productie, geen industrie, dus geen werk. Zo komen veel Albanezen bij ons. En het geld dat ze dan verdienen, dient dan ook om een huis hier te kunnen bouwen. Maar de Albanezen bezitten veelal niet die mentaliteit om werkgelegenheid te bevorderen, maar ook niet vanuit de huidige regering. Er is dus een zwaar werkgelegenheidsprobleem, waaronder al deze gezinnen lijden. Dan had ik het over de beleving van de godsdienst. Het is geweten dat ongeveer 60% de islam beleiden en een 16% het christendom, maar dat er weinig zijn die het echt praktiseren. En dat bevestigen onze tandemgasten uit hun gesprekken.
Ce qui s'est passé, c'est que pendant le communisme, que ce soit l'islam ou la religion catholique ou toute autre religion, ils n'avaient pas le droit d'exercer leur religion. Et depuis donc 92, tout est à reconstruire. C'est une nouvelle évangélisation presque, en tout cas pour la religion catholique. Mais ce qui, du coup, pour la religion musulmane, c'est pareil. Donc à la fois, on dit qu'il y a 60%, mais en même temps, en pratique, il n'y a pas 60% de musulmans. Et c'est toutes les bases, tout est à remettre.
Donc il n'y a pas eu beaucoup de vocations pendant le régime communiste.
Non.
Par exemple, en Pologne, bien,
oui.
Mais pas ici.
Et sinon, les prêtres sont en grande, grande, grande majorité, voire tous, italiens.
Tijdens het communistische regime had geen enkele godsdienst het recht om te bestaan. Na de val van dit regime in 1992 moest alles terug heropgericht worden voor eender welke geloofsbeleving. Een volledige nieuwe evangelisatie dus voor het christendom. In tegenstelling met bijvoorbeeld Polen waar er wel vele roepingen waren tijdens de dictatuur. Hier in dit land niet. Vandaar dat de meeste priesters buitenlanders zijn en bijna allemaal Italianen om hier te evangeliseren. Ten slotte keren Benoît en Alix even terug naar de parochie aldaar.
Mais ce matin à la messe, par exemple, donc, il y avait la messe à 7h30 et l'école est juste en face, à 8h. À 7h30, il y avait...
Une trentaine de jeunes dans l'église.
Voilà.
Et qui sont partis après pour l'école.
Et le père disait, ils viennent la semaine et ils viennent pas le dimanche parce que leurs parents les interdisent le dimanche.
Bijvoorbeeld, de school begint om 8 uur 's morgens. Om 7:30 is er de heilige mis in de kerk rechtover. Er waren een 30-tal jongeren in de kerk. Maar, vertelde de pater, er zijn er dus die in de week komen elke dag, maar niet de zondag, want ze mogen niet van hun ouders. En dan vroeg ik beiden naar het gezinsleven. Op hun blog had ik gelezen dat de gezinnen leven daar verscheurd tussen Oost en West, tussen Europa en wetten uit de 15e eeuw.
C'est ce qu'on nous avait dit à Rome, c'était donc qu'il y avait effectivement des traditions très anciennes qui demeuraient, avec entre autres le père tout-puissant voilà, sur la famille, et la mère qui n'a pas mot à dire, enfin qui n'a rien à dire.
C'est tout à fait le contraste avec l'Italie alors, donc c'est le papa ici,
c'est vrai que c'est un contraste.
Il n'y a pas la maman.
Alors on a appris, là, maintenant qu'on est en Albanie, que c'est encore le cas, mais dans des villages reculés, dans les villages de montagne, essentiellement.
Dat had men ons in Rome al verteld, dat er zeer oude tradities bestaan waarbij de vader oppermachtig is in zijn gezin en de moeder niets te zeggen heeft. Dus totaal contrast met in Italië bijvoorbeeld la mamma. En deze mentaliteit is er nog in de afgelegen bergdorpen.
Dans la plaine, la mentalité change et entre autres nous rentrons tout juste d'une visite dans une famille d'Albanie et nous avons pu remarquer et même eux nous ont dit que voilà, à la maison, c'était la maison de la c'était la femme qui était maîtresse de maison. L'homme s'occupe de l'argent, c'est comme ça qu'il l'a présenté, mais on a vraiment pu voir qu'il y avait une harmonie quand même chez le couple.
La femme avait la possibilité de parler,
oui,
ce qui n'existait pas avant. Vraiment, c'était des traditions très
très fortes,
très, très, fort, très, très rudes.
In de vlaktes verandert de mentaliteit. Zo waren we bij een gezin waar ze toch vertelden dat de moeder het voor het zeggen had in huis. De man houdt zich bezig met de financiën, zo verklaarden zij. Maar wij stelden toch een harmonie vast tussen man en vrouw. De vrouw heeft het recht te spreken wat vroeger niet denkbaar was. Het waren zeer sterke en ruwe tradities.
Deux signes, deux exemples. Lors du mariage, ici, d'abord le mariage se fait d'abord dans la famille de la fille, pendant toute une semaine, donc c'est la fête tous les soirs avec les amis, les voisins. Le samedi matin, ou le dimanche, puisqu'ici le mariage se fait aussi le dimanche, donc le dimanche, le mari vient chercher la femme, l'emmène à l'église, mais seulement avec la famille du garçon, pas la famille de la fille. La famille de la fille reste chez elle.
La fête a déjà été faite, donc maintenant c'est avec
la famille du garçon, et ils viennent à l'église. Les mariés ne sourient pas ici, ils doivent être tristes, et la fille doit faire semblant de pleurer, ou pleurer.
C'est la coutume.
Un proverbe dit que elle est chez elle, elle est la bienvenue, et quand elle quitte ses parents, elle va pour servir son mari. C'est la servante de son mari.
Benoît haalde twee voorbeelden aan. Bij een huwelijk is er eerst de ganse week, elke avond feest, bij het meisje met haar familie, vrienden en buren, dus zonder de jongen. En de zaterdag of de zondag, er wordt ook de zondag gehuwd, haalt de jongen het meisje bij haar thuis en brengt haar naar de kerk. En daar is haar familie niet aanwezig. En beiden tonen in de kerk een droevig gelaat, en het meisje moet zelfs doen alsof ze weent of echt weent. Dat is de gewoonte. Trouwens, een gezegde aldaar zegt, Bij haar thuis is ze welkom, maar als ze haar ouders verlaat, wordt ze de dienares van haar man.
C'était très étonnant. Dimanche, il y a eu un mariage. La jeune fille est entrée en avec des fausses, enfin, c'est un peu des fausses larmes. Vous voyez que c'était pas, mais l'air grave quand même, l'air grave. Moi, je me suis dit, tiens, elle est pas heureuse. Et non, on nous a dit que c'était normal.
Zo waren we inderdaad zondag op een huwelijk. En het meisje kwam binnen met valse tranen, maar vooral met een zeer ernstig gezicht. Ze zag er niet gelukkig uit. Maar dat is normaal, verzekerde men ons.
Et une autre tradition, alors, qui ne se fait plus.
Mais qui explique bien la mentalité qu'il y avait avant.
C'est que la famille de la femme mettait une balle de revolver dans les affaires de la fille. Si la femme avait envie de quitter son mari, le mari pourrait se servir de cette balle pour la tuer.
Oui.
C'est une loi. C'était légal de tuer sa femme, ça, si elle voulait s'en aller.
Mais ça, c'est fini.
C'est fini. Heureusement.
Een andere gewoonte, maar die nu niet meer gebeurt, maar die wel die mentaliteit verklaart, is de volgende. Het gezin van de vrouw legde vroeger in de bagage van het meisje een kogel van een revolver. En indien zij van plan was haar man te verlaten, dan was het de man legaal toegestaan met die kogel zijn vrouw neer te schieten. Maar deze tijd is gelukkig voorbij.
Et on a pu discuter avec des plus jeunes qui nous disaient, en tant que femme, si jamais je veux aller visiter ma famille, j'ai le droit d'y aller. Alors qu'avant, c'était pas possible. Avant, il fallait systématiquement l'autorisation du mari.
We hebben gepraat met de jonge moeders die verklaarden dat ze bijvoorbeeld hun familie nu mogen gaan bezoeken zonder toestemming van hun man. En dat was vroeger ondenkbaar.
Mais après, le couple habite chez les parents de l'homme, du mari.
Ah oui.
Et du coup, tous dorment dans la même maison.
Ça donne pas de problème.
Alors si.
Mais en fait, tout,
ils obéissent.
C'est comme ça.
Ils obéissent c'est le grand-père qui décide. Grand-père et grand-mère. Grand-père et grand-mère ensemble. C'est eux qui décident puisque c'est leur maison. Et voilà.
Et donc on a demandé au fils qui est un homme de 40 ans, on lui a demandé, alors vous, qu'est-ce que vous faites dans la maison? Et il a répondu, je fais ce que me demande mon père.
Ah oui.
Voilà, donc il y a vraiment une hiérarchie. Mais ceci dit, dans cette famille, il y avait quand même une certaine harmonie. Enfin, voilà, ils n'avaient pas l'air malheureux ou oppressés. Ou, voilà.
Uiteraard stellen Alix en Benoît wel vast dat het koppel inwoont bij de ouders van de man. En het zijn de grootouders die alles beslissen. En ze vroegen dan aan de 40-jarige zoon wat hij in huis deed, en deze antwoordde, ik doe wat mijn vader, dus de grootvader, vraagt. Maar ondanks die hiërarchie, vertelde Alix, heerste er toch een zekere harmonie. Ze zagen er zeker niet ongelukkig uit of levend onder een zekere dwang. En dat het er aangenaam was, horen jullie verder.
On a été reçu avec beaucoup de chaleur, une vraie chaleur, et Benoît a pu goûter la grappa. Ils font tous leur alcool. Les prêtres disaient, les visites aux familles, c'est toujours dangereux parce que chaque famille nous fait goûter leur grappa, leur propre.
C'est pour ça que vous n'êtes pas encore parti avec le tandem.
We werden met veel hartelijkheid ontvangen. Benoît kon proeven van de grappa. Alle gezinnen maken hun eigen alcohol. De paters vertelden ons dat het als het ware gevaarlijk was bij familiebezoeken. Telkens wordt er grappa aangeboden. Te verstaan dat Benoît en Alix nog niet zo snel vertrokken met hun tandem. Zo, beste luisteraars, wat is nu hun planning voor de volgende dagen? Morgen, dit is 14 oktober, vertrek naar Thessalonica in Griekenland. Een goede 500 kilometer. Ze hopen er rond 25 oktober aan te komen. Maar het is nogal een bergzame streek. Dus veel klimmen, maar ook dalen.
Alors, le planning?
Demain, nous partons, nous reprenons notre tandem et nous descendons pour rejoindre la Grèce. On compte arriver vers Thessalonique autour du 25 octobre. 500 km, mais surtout des montagnes. Alors, on va voir ce que ça donne.
Et ça monte, oui. Et dans ça descend aussi. Ok. Voilà, je vais vous laisser. De nouveau, beaucoup de courage. Et
merci.
Un grand merci pour l'interview.
Merci à vous.
À la prochaine fois.
Et à la prochaine fois.
Merci.
Met de tandem op wereldreis. Op zoek naar de vader.